Chapitre 61. N'ayant rien pour se sécher, Vincent a remis ses vêtements qui lui collent à la peau. Sa mâchoire tremble et il frissonne, mais il est trop absorbé pour s'en soucier. À la lueur des lanternes, il scrute la surface de l'eau. De légers remous l'agitent, quelques bulles remontent parfois. « S'il tarde trop, j'irai le chercher, » souffle-t-il. L'autre ouvrier tempère. « Ne vous en faites pas, Baptiste, c'est ce qu'il fait, il a du coffre. » Le gaillard refait en effet bientôt surface dans une gerbe d'eau. « Alors ?»«
Rien trouvé. Ni levier, ni poignée, mais peut-être qu'avec notre pied de biche. »
Son comparse s'empresse de sortir l'outil de sa besace et le lui tend. Vincent l'avertit. « Le fer ne m'a pas semblé affaibli. »
« En prenant appui sur le fond, je vais tenter de faire levier pour soulever ou pousser la grille. Soyez prudent. »
Pour toute réponse, l'homme lève la main, s'emplit les poumons d'air et replonge. Pour ceux qui patientent dans le silence du tunnel, les secondes s'étirent et paraissent bien longues. Quelques ondulations de la surface trahissent parfois les mouvements de l'explorateur sous-marin. L'homme ne devrait plus tarder à présent. Ils s'attendent à le voir revenir d'un moment à l'autre. C'est alors qu'une brusque secousse ébranle le tunnel. Charles se rattrape au mur. Vincent manque de glisser. Le roulement sourd ne cesse pas, et l'eau se met à bouillonner. Son niveau monte rapidement, et des remous de plus en plus puissants l'agitent. La mare s'est transformée en un océan déchaîné. Charles et l'ouvrier reculent, mais Vincent ne bouge pas. Bon sang, que se passe-t-il là-dessous? Une fissure apparaît tout à coup dans le plafond. Une fine poussière en tombe, puis un fragment de roche.
« Il faut qu'il revienne !» s'exclame Vincent. « Il va être broyé. J'y vais !»
Avant que Charles n'ait eu le temps de l'en dissuader, un remous plus violent que les autres expulse le corps du plongeur. Comme une gueule rejetant la carcasse de sa proie, la masse liquide vomit son visiteur. L'homme flotte sur le ventre, inerte, bras et jambes écartés, le visage dans l'eau. Le bouillonnement du flot s'apaise peu à peu, le tonnerre sourd recule. Mais le niveau ne baisse pas. Des volutes rougeâtres se répandent autour du malheureux.
« Baptiste ! Baptiste !»
répète son compagnon qui s'acharne à le ranimer après l'avoir hissé à terre. Le corps du pauvre bougre est lacéré de nombreuses entailles sanglantes. Si l'on en croit le nombre et la profondeur des blessures, le plongeur ne semble pas tant avoir été victime de l'éboulement que criblé de pointes. Son complice ne se résout pas à le perdre. Il prend le corps dans ses bras et se lamente. Charles pose la main sur son épaule et lui parle doucement. L'homme secoue la tête, mais Charles parvient pourtant à l'apaiser et à le convaincre de reposer le cadavre. « Il est trop tard, je suis désolé. » Vincent ferme les paupières du mort. L'eau, à nouveau étale, est plus haute et plus trouble qu'auparavant. Elle s'est teintée du sang de sa victime. Vincent scrute ce qui reste du tunnel comme on dévisage le suspect d'un meurtre. « Pauvre garçon, » murmure Charles, « a-t-il déclenché un piège ou est-ce la structure trop vieille qui a cédé sous ses assauts ?» On ne saura jamais ce qui l'a tué, mais une chose est sûre, ce passage-là est désormais condamné. Charles acquiesce et se relève, la tête basse. Remontons la dépouille de notre ami à la surface.